Eh bien, mes amis, dans ce 20 mai 1994, une fois encore, Dieu nous réunit quelques-uns pour préparer ce camp de travail à Cedar Lodge, dans l'espoir de préparer toutes choses pour que les camps qui auront lieu ici, non pas seulement celui que nous avons annoncé, ce camp familial de la première semaine de juillet, mais d'autres aussi, puissent bien fonctionner. Et on vous remercie d'avoir consacré ces journées pour ce travail. J'ai beaucoup prié pour savoir ce qui pourrait le mieux nous édifier et nous préparer à ces diverses tâches qui seront les nôtres. Et en ouvrant ma Bible à la première page, j'ai été frappé une nouvelle fois par ces paroles de ce chapitre premier de la Genèse, où nous lisons tout simplement « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Alors nous voulons prier maintenant pour que Dieu nous inspire et nous dirige. Ô Dieu, tu sais pourquoi nous sommes venus ici. Tu sais aussi quels sont les amis que nous attendons encore et qui, Dieu voulant, demain se joindront à nous pour œuvrer dans cet endroit qui est si cher à nos cœurs et où depuis tant d'années nous avons pu nous rassembler pour annoncer ta parole à des jeunes, à des moins jeunes, à des enfants, comme à des personnes plus âgées. Oui, nous te bénissons du témoignage qui a pu être rendu dans ce lieu si merveilleux que nous avons dans cette province de Québec. Et nous pensions l'année dernière que c'était bien la dernière fois, et puisque nous sommes encore debout aujourd'hui, par ta grâce, nous désirons continuer et être vraiment préparés pour ces journées qui viennent, quelles que soient les tâches qui nous seront confiées. Que nous puissions faire ici toutes choses de cœur, comme pour le Seigneur, avec la joie que tu donnes à ceux qui t'aiment. Bénis-nous dans cette soirée et prépare le voyage de ceux qui nous rejoindront pour ta seule gloire en Jésus-Christ. Amen. Vous avez vos Bibles, eh bien, en ouvrant nos livres à cette première page, on est toujours frappé de constater que Dieu ne nous donne pas de preuve de son existence. Mais nous présente par sa parole qu'il existe. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors je voudrais ce soir essayer de répondre par la parole à une question qui nous est souvent posée. qu'est-ce que Dieu faisait avant le commencement? Avant la fondation du monde, qu'est-ce que Dieu faisait? À cette réponse, un sage des temps anciens, un sage croyant, a dit ceci: il préparait l'enfer pour des gens qui posent de telles questions. Parce que Dieu n'a pas à nous expliquer ce qu'il faisait. Au commencement, Dieu. Mais pourtant, il y a dans la parole une réponse sceptique. Il y a sept réponses à cette question. Et je voudrais simplement ce soir, puisque nous nous préparons à ce camp, qu'est-ce que l'Écriture nous donne comme réponse à cette question? Que faisait Dieu avant la fondation du monde? Et si on comprenait mieux ce qu'il faisait, je crois que nos cultes seraient complètement transformés et qu'on aurait des motifs d'adoration incroyables. Avant la fondation de notre terre, qu'est-ce qu'il faisait? Bien, je vous invite à lire, parce que je ne veux pas que vous ayez mes idées, mais je prendrai ma Bible d'Arby parce que le caractère est plus grand. Dans le chapitre 38 de Job, qu'est-ce que nous apprenons? Vous connaissez l'histoire de Job, ses épreuves. Il s'est posé une foule de questions et lui-même a posé des questions à Dieu et il n'avait pas de réponse. Et quand enfin Dieu a trouvé bon de lui répondre, vous le savez aussi bien que moi, il n'a répondu à aucune de ces questions. Seulement, Dieu lui a posé des questions. Chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu du tourbillon. Qui est celui-ci qui obscurcit mon conseil par des discours sans connaissance? S'interroge comme un homme et je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Donc Dieu existait avant la fondation de la terre, hein? Mais toi, Job, qui poses tant de questions à mon sujet, où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le-moi si tu as de l'intelligence. Qui lui a établi sa mesure, si tu le sais? Ou qui a étendu le cordeau sur elle? Sur quoi ses bases sont-elles assises? Ou qui a placé sa pierre angulaire? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. Eh bien, qu'est-ce que Dieu faisait avant la création de la terre? Nous apprenons ici que Dieu avait créé les anges et les étoiles. Donc nous apprenons qu'avant la création de la terre et sa formation, Dieu avait déjà créé. Certaines choses, ou certains êtres. Il avait créé les anges et les étoiles. Une deuxième réponse, je la trouve dans le chapitre 8 des Proverbes. Un passage que vous connaissez sûrement, que l'on entend lire quelquefois dans nos cultes. Chapitre 8 des Proverbes, qui nous parle de la sagesse, et où nous lisons au verset 22e, l'Éternel m'a possédé au commencement, on retrouve un commencement, au commencement de savoir, avant ses œuvres d'ancienneté, avant qu'il crée la terre, l'Éternel a possédé la sagesse. Dès l'éternité, je suis établi. Dès le commencement, dès avant les origines de la terre, qu'est-ce que Dieu faisait avant de créer la terre? Eh bien, nous apprenons qu'avant ses œuvres les plus anciennes, Dieu possédait l'éternelle sagesse, qui est, comme nous le savons, la parole, qui plus tard allait apparaître dans la personne de Christ. Et vous avez cela dans le chapitre premier de Jean, ce qu'on appelle le prologue de l'apôtre Jean, où il dit « Au commencement était la parole ». Donc la parole était avant le commencement. Le commencement dont il est parlé dans l'évangile de Jean vient avant même le commencement que nous trouvons dans la Genèse. Et la parole était auprès de Dieu et la parole était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et sans elle, pas une chose ne fut faite de ce qui a été fait. Et nous apprenons au verset 14, et la parole devint chair. Cette parole, que nous savons être le Christ, était déjà entièrement présente avec Dieu, tel commencement, dans des rapports de mutuelle communion. Que nous apprenons, qu'est-ce que Dieu faisait avant le commencement? Il était avec qui? Avec le Fils. Il aimait le Fils. Au chapitre 17 de Jean, au verset 24, nous entendons le Seigneur lui-même nous dire « Tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Donc il y avait quelque chose avant la fondation du monde. Mais qu'est-ce qu'il y avait? L'amour du Père pour le Fils. Il possédait cette sagesse qui était la parole. Le Père aimait le Fils. Jean 17, verset 20. Tu m'as aimé avant la fondation du monde. Puis au verset 17, verset 5, Jésus dit, au début de sa prière, glorifie-moi, toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Donc, quand on se pose la question, qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? Mais il y avait le Fils. Il y avait le Fils dans la gloire. C'était la parole éternelle, c'était la sagesse éternelle, c'était l'éternel bien-aimé, c'était l'éternel glorieux. Glorifie-moi, toi Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais avant que le monde fût. On s'arrête toujours à la création, au commencement, non, mais avant le commencement, il y avait cette gloire magnifique. Alors, une troisième réponse. Apocalypse 13, verset 8, si vous voulez me suivre, qu'est-ce que nous trouvons comme réponse? Apocalypse 13, verset 8, et puis je dirais aussi 17, verset 8. Nous apprenons, je lis le verset, tous ceux qui habitent sur la terre, verset 8 du chapitre 13, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau immolé, lui rendent hommage. Au chapitre 17, verset 8, la bête que tu as vue était et n'est pas, et va monter de l'abîme et aller à la perdition, et ceux qui habitent sur la terre dont les noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde au livre de vie, s'étonneront en voyant la bête qu'elle était et qu'elle n'est pas et qu'elle sera présente. Donc, Dieu, avant la fondation du monde, a préparé, selon son dessein, on peut dire, le salut des individus. Il a écrit leur nom dans le livre de vie de l'agneau, au fond, avant le commencement du monde. Ça veut dire qu'en fait, il les a prédestinés dans l'amour, à l'adoption et à la sainteté, avant toute la création. Et vraiment, que nous trouvons dans Éphésiens, au chapitre 1er, vous vous en souvenez, chapitre 1er des Éphésiens, pour avoir vraiment la pensée de Dieu, pour savoir ce qu'il faisait avant la fondation du monde, avant la création. Comme nous, nous avons quelque chose à faire maintenant, avant le commencement de ce temps de travail. Eh bien, nous avons un plan, nous étudions ce que les uns et les autres pourront faire. Eh bien, Dieu aussi a agi selon son conseil. Et je lis au chapitre 1er, versets 4 et 5. Selon qu'il nous bénisse, soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde, c'est toujours ça, hein. Avant la fondation du monde, il nous a élus en lui, pour que nous puissions saints et irréprochables devant lui en amour. Donc, on a existé dans la pensée de Dieu avant la création de la terre. Donc, Dieu avait une occupation sainte à notre égard. Et je dirais que, de la même manière, quand on lit dans Tite, Il est dit que la vie éternelle, il nous l'a promise quand, titre 1, verset de Paul esclave de Jésus, le Paul esclave de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, selon la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, dans l'espérance de la vie éternelle que Dieu, qui ne peut mentir, a promise avant les temps des siècles. Mais il l'a manifesté en son propre temps par sa parole. Donc avant la création, cette vie éternelle dont nous parlons et que nous croyons posséder, elle nous était promise avant les temps des siècles. Hein, vous voyez comme c'est faux dans les prédications quand on dit, par exemple, à quelqu'un, ben, si tu prends la décision ce soir, et le Seigneur écrit ton nom dans le livre de vie, ça c'est nos impressions, mais c'est pas vrai. Les sauvés, leur nom était écrit dès avant la fondation du monde. Ça change complètement la vision. Et ça nous donne une assurance extraordinaire. Le Dieu qui ne peut mentir ne reviendra pas sur cette question. Et ça vous montre combien Jésus avait raison quand il disait, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Au fond, au moment de notre conversion, nous prenons conscience que Dieu, dans son amour, avait écrit nos noms dans le livre de vie. Et vous savez que Moïse avait demandé d'être effacé de ce livre. Hein? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Non. Celui que j'effacerai de mon livre, c'est pas toi. C'est celui qui pêche. Et qui reste dans son péché. Il peut avoir fait 10 fois profession de se convertir, il n'est pas un sauvé. S'il n'a pas reçu vraiment le Seigneur dans son cœur. Alors, du point de vue de Dieu, qui est vraiment hors du temps, la grâce nous a été donnée avant le temps des âges. C'est quelque chose de fantastique. Et c'est pourquoi je dis ça, ça nous pousse à l'adoration, quand tu prends conscience de cela, qu'avant le temps des âges, et ça je n'invente rien, prenez 2 Timothée, pour que vous soyez sûr que ce ne sont pas mes idées et que je me base sur 1 ou 2 versets, non. C'est l'ensemble de l'Écriture. 1 Timothée 1, verset 9. Ou disons puis verset 8. N'ayez donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais prenez part aux souffrances de l'Évangile selon la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés d'un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa propre grâce qui nous a été donnée dans le Christ Jésus avant les temps des siècles. Soulignez tous ces avant, n'est-ce pas? Avant les temps des siècles, avant la création de l'univers, Dieu avait établi un dessein pour sauver les hommes. Quelle chose merveilleux. Mais ça change complètement aussi notre vision concernant l'évangélisation. Nous évangélisons, mais nous ne nous attribuons pas le salut des âmes. C'est Dieu qui les sauve. Et il avait arrêté dans son cœur ce conseil merveilleux de sauver les âmes. Alors il y a une quatrième réponse à cette question. Enfin, qu'est-ce que Dieu faisait avant la fondation du monde? Prenez Éphésiens, 3. Il y avait donc toute une préparation. Mais alors on est complètement dépassé là. C'est Paul qui nous raconte ceci. C'est pour cela que moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous, les nations, si, du moins, vous avez entendu parler de l'administration de la grâce de Dieu qui m'a été donnée envers vous, comment par révélation le mystère m'a été donné de connaître, ainsi que je l'ai déjà écrit en peu de mots, d'après quoi, en le lisant, vous pouvez comprendre quelle est mon intelligence dans le mystère du Christ, lequel, en d'autres générations, n'a pas été donné à connaître au Fils des hommes, comme il l'a été maintenant révélé à ses saints apôtres, les prophètes, par l'Esprit, savoir que les nations seraient cohéritières et d'un même corps et coparticipantes de la promesse dans le Christ Jésus par l'Évangile duquel je suis devenu serviteur selon le don de grâce de Dieu qui m'a été donné selon l'opération de sa puissance. À moi qui suis moins que le moins des saints, cette grâce a été donnée d'annoncer parmi les nations les richesses insondables du Christ. Donc ce que nous apprenons dans ces passages, c'est qu'avant la création du monde, Dieu a préparé, selon son conseil, le salut de l'Église. Depuis l'éternité déjà, l'étonnante structure qui est le corps du Christ était déterminée par le Rédempteur. Et Dieu était déjà caché. En Dieu était déjà caché ce mystère de Christ, savoir que ceux des nations seraient dans le Christ Jésus cohéritiers, membre et co-participant de sa promesse par l'Évangile. Mais cette Église, cette révélation de l'Église n'avait pas été donnée jusqu'au moment où Paul a reçu cette révélation. Prenons maintenant un cinquième point, 1 Pierre, chapitre 1, vous connaissez bien le verset. C'est un verset qui est souvent cité. 1 Pierre 1, verset 19e, si je ne m'abuse. Je vais m'arranger autrement avec ce tien, je ne vois pas assez clair. Verset 19, ou déjà verset 18, « Sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, que vous avez été enseignés par vos pères, non par des choses corruptibles, de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès la fondation, non? Dès avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous, qui par lui croyez en Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts, et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance fussent en Dieu. Dieu donc a désigné son Fils pour être le médiateur de son plan de salut. Ce Fils, c'est l'agneau sans défaut et sans tache, qui était vraiment préconnu dès avant la fondation du monde. Ce Christ qui est médiateur de la création du monde, c'est lui, et c'est en lui que toutes choses ont été créées, tant celles qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre, comme le dit Colossiens 1.16, Apocalypse 3.14, Jean 1.3. Le Christ est donc le Créateur, mais il est aussi le médiateur de la préservation du monde, car il est dit que toutes choses subsistent par lui. Toutes choses ont été créées en lui, Colossiens 1,16. Toutes choses subsistent par lui, Colossiens 1,17. Il est le médiateur de la rédemption du monde, car il est dit que Dieu a voulu que toute la plénitude subsiste en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même. Colossiens 1, verset 18. Et puis, enfin, il est le mandataire désigné pour le jugement du monde. Et tout cela a été établi avant la création de la terre. Le Père a remis tout jugement au Fils. Une sixième réponse, et nous allons vite terminer, Matthieu 25, verset 34. Vous vous souvenez de ce que le Seigneur dit aux brebis qui sont à sa droite, au verset 34e. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, héritez du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais infirme et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu auprès de moi. » Donc, dès la fondation du monde, Dieu a préparé le royaume destiné aux siens. Et le roi dira un jour, « Prenez possession du royaume qui vous a été préparé. » Et dans 1 Corinthiens 2, 7, il est dit que c'est pour cela aussi que la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, avait été préordonnée par lui pour notre gloire, déjà avant les âges. Tout cela, c'est ce que Dieu a établi avant les âges. Car il faut que le Seigneur règne. Il n'a pas encore régné. Il est venu une première fois. Il a été rejeté. De sorte qu'il n'y a pas eu le règne de Dieu sur la terre. Qu'est-ce que nous avons vu? Selon les prophéties, pour diriger le monde, qu'est-ce qui s'est succédé? Des animaux, plus terribles les uns que les autres, mais il n'y a pas encore eu un règne humain sur la terre. Il n'y a pas encore eu un règne humain sur la terre. Quand le roi, le seul humain vraiment, le Fils de Dieu, est venu, il l'a été crucifié, et le règne n'a pas pu s'établir. Pourquoi est-ce que nous sommes dans un temps si difficile? C'est parce que on a préféré Barabbas à Jésus. Et qui est-ce que nous voyons diriger le monde aujourd'hui? Ce sont des Barabbas, des brigands, des gens qui tuent, qui se massacrent. On est étonné. Non, on n'est pas étonné, on a choisi Barabbas. Satan règne par ses agents. Et alors la septième réponse, je la trouve dans Hébreux 9. Et c'est avec cela que nous allons terminer.
Hébreux 9, verset 14. J'avais déjà la vie. Depuis le verset 13.
Car si le sang des boucs et des taureaux est la cendre d'une jeunesse avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souillés, sanctifie pour la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tâche, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant. Ici, on voit que c'est de toute éternité que le Fils voulait parfaire l'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi sa mort en croix a été réellement une offrande volontaire, c'est par un esprit éternel. Donc, déjà avant la fondation du monde, le Fils de Dieu s'était offert, donc par un esprit éternel, il s'était offert à Dieu pour la rédemption. Et c'est par ce même esprit que furent accomplis ses autres œuvres. Donc voilà ce que sont les réalités éternelles avant la création du monde. Dès les temps éternels, Dieu a choisi le Fils comme rédempteur, afin de le donner au monde perdu. On résume cela par cette parole: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais c'était arrêté avant la création de l'homme, avant la création de la terre. Et puis, d'un autre côté, en même temps, selon le même plan éternel, le Père allait donner au Fils le monde racheté. Dieu a donné au monde son Fils, mais en même temps, il avait établi qu'il donnerait ce monde racheté à qui est-ce qu'il appartiendra? À qui est-ce que ce monde appartiendra? Au Fils. N'est-ce pas? Le monde racheté appartiendra au Fils. Alors comprenons cela. Nous savons que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Alors ayons affaire avec Dieu. Au lieu de nous mêler de la politique de ce monde, de prendre position pour le monde, nous savons qu'il y a un plan éternel avant la création de la terre, avant la création du monde. Tout était préétabli, préordonné. Alors ça doit parler à nos cœurs. Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce que Dieu faisait avant la création du monde, de la terre? Mais il a créé les anges. Et on continuera demain. Mais ce que je voudrais vous laisser aujourd'hui, c'est cette pensée, quand il est dit « au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Que savons-nous sur ce Dieu? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Dieu est quoi? En un mot, il est amour. Vous savez, Dieu est amour.
Alors, s'il est amour, il doit y avoir en lui quelqu'un qui aime. Hein. Si Dieu est amour, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il est amour, en lui, il doit aimer. Hein. Il y a donc en lui quelqu'un qui aime, un bien-aimé et un esprit d'amour. C'est saint Augustin qui disait cela. Aucun amour n'est convenable sans quelqu'un qui aime et quelqu'un qui soit aimé. Aucun amour n'est convenable sans quelqu'un qui aime et sans quelqu'un qui est aimé. Alors, qu'est-ce qu'on trouve déjà là? Deux personnes. Il y a celui qui aime, s'il est amour, s'il est amour, puis il y a celui qui est l'objet de cet amour, qui est aimé. Ça fait déjà donc deux personnes. Alors déjà parmi les hommes, il y a une dualité d'amour qui peut trouver sa satisfaction dans un lien d'amour. C'est-à-dire précisément en elle-même. Dans cette dualité. Néanmoins, le concept d'amour implique toujours une tri-unité. Il y a une origine, parce qu'il procède de celui qui aime. Il y a une destination, parce qu'il se déploie envers l'être aimé. Et puis il y a une communion, parce qu'il unit les deux en un comme esprit d'unité. Alors qu'est-ce qu'il y a? Trinité. Déjà dans la première page de l'Écriture, vous trouvez cette Trinité. Le Père est Dieu, de qui tout procède par nature. Le Fils est Dieu vers qui tout s'oriente, puis l'Esprit est Dieu par qui tout se meut. Le Père est celui qui aime, le Fils est le bien-aimé et l'Esprit Saint et l'Esprit d'amour. Et c'est ce Dieu-là qui, au commencement, a tout créé. Un Dieu trinitaire. Dieu notre Père, nous voulons te demander que ces vérités éternelles nous pénètrent. Et qu'au lieu de ne voir que notre temps présent, nous puissions par ton esprit te rejoindre dans ton conseil éternel, afin que quand nous sommes en ta présence pour t'adorer, nous n'en restions pas à notre petit salut d'il y a quelques années, mais que nous allions dans nos pensées, jusqu'à ton conseil éternel, que nous puissions penser à ce moment où les anges que tu avais créés avant nous, avant la fondation de la terre, puisqu'ils ont assisté à la fondation de la terre, se réjouissaient, éclataient de joie, ô notre Dieu. Tu vois que nos cultes sont tristes, parfois, nous ne savons plus éclater de joie. Eh bien, nous voulons te demander que tu nous ramènes à ton conseil éternel. Que nous soyons pénétrés de ce qui te caractérisait. Tu étais avec la sagesse éternelle, dans la joie, de ce propre Fils qui allait satisfaire pleinement tous tes desseins pour accomplir l'œuvre de la rédemption, avant même que le péché soit entré dans le monde. Ô Dieu, donne-nous d'entrer dans ton conseil éternel et de savoir que tu écrivais nos noms avant la fondation du monde dans le livre de vie. Et que ces noms-là, tu ne les effaceras pas, que le fait que nos noms sont écrits dans le livre de vie ne vient pas de notre décision simplement terrestre. Notre décision d'il y a 60 ans ou 65 ans, ou 4 ans ou 2 ans, ou il y a un mois, que nous ayons une autre conception de ce si grand salut qui a été établi dès l'éternité. Celui qui devait l'accomplir était l'agneau de Dieu, préconnu dès avant la fondation du monde, pour être manifesté au temps propre. Et c'est par son sang que nous sommes rachetés, lavés, purifiés de toute iniquité. Ô Dieu notre Père, nourris-nous de ce plan éternel, afin que quelque chose de nouveau puisse être proclamé quand nous sommes réunis deux ou trois en ton nom. Nous te le demandons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, afin que quelqu'un du monde qui ne connaît rien, quand il entre dans nos cultes, soit saisi et confesse que l'Esprit de Dieu est vraiment là. Que nous connaissons le Père d'amour qui a aimé le Fils bien-aimé, et qui a voulu faire de nous aussi des bien-aimés, et que nous ayons une communion du Saint-Esprit, Père, Fils et Saint-Esprit, que notre communion les uns avec les autres soit vraiment la communion du Saint-Esprit, et que nous puissions dire Amen à tout cela, en Jésus-Christ. C'est notre préparation, Seigneur, pour ce camp de travail que tu veux bénir et où tu veux nous donner beaucoup de joie en ton amour. Amen.